Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à la question de la représentation du rap sur grand écran et comment le rap nourrit le cinéma et les séries. La série Kaïd vient d'arriver sur Netflix et nous plonge dans le milieu du rap et des cités, alors que Validé a battu tous les records l'an dernier sur MyCanal, et alors qu'on retrouve beaucoup de rappeurs dans les castings de films. Je pense à Joystar, Mekfeu qui a tourné avec Deneuve, à Grand Corps Malade, Abdelmalik aussi, qui vient même de sortir une mini-série sur TikTok. La liste est longue, je vous raconte ça dans un instant et nous recevrons Franck Gastambide, le réalisateur de Validé, pour approfondir notre réflexion sur le sujet. 14h30, les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est Nicolas Maury qui a accepté de répondre dans notre questionnaire de Proust version cinéma. Nicolas Maury, vous savez, qui joue notamment Hervé dans la série 10% et qui a réalisé son premier film qui ressortira à la réouverture des salles, Garçon Chiffon. Alors par exemple, quel est son meilleur souvenir en salle ?
Le mot de passe de la soirée. Je crois que je l'ai oublié.
C'est extrêmement fâcheux.
Retirez vos vêtements.
Voilà, vous avez peut-être reconnu Ice Watch Shut. Et pour découvrir les autres souvenirs cinéma de Nicolas Maury, rendez-vous dans une demi-heure. Et puis juste après, j'accueillerai mes collègues critiques pour débattre des films sortis en DVD, VOD ou sur vos plateformes. On parlera du moyen-métrage de Pedro Almodovar qui sort en DVD. On débattra de Sacrée Sorcière de Robert Zemeckis en achat digital. Et puis on parlera également de Falcon et le Soldat de l'Hiver, la nouvelle série de l'univers Marvel sur Disney+. Voilà pour le programme de votre Clap, qui démarre maintenant avec notre récit « Comment le rap nourrit le cinéma et les séries ».
Europe 1, le récit.
La porosité entre rap et cinéma ne date pas d'hier. Même si les liens semblent se renforcer ces dernières années, on peut par exemple revenir en 1997. Le groupe marseillais IAM sort alors « L'école du micro d'argent », disque dans lequel on retrouve le titre « L'Empire du côté obscur », qui fait clairement référence à Star Wars.
Salaud rejeton de Dark Vador, le grand cador du maniement, le mic j'adore. Ma conscience comme seule médaille, je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi.
Le clip reprend d'ailleurs les codes du film pour dénoncer la caricature qui est faite de la jeunesse des quartiers. Autre exemple encore plus ancien, en 1983 sort au cinéma Scarface de Brian De Palma.
La vie de rêve, on te dit quoi il faut penser ou quoi écrire, quoi faire. Être le mouton tu aimes, hein? Ne me prends pas pour un voyou, mec. Je suis pas une pute qui vole. Je suis Monsieur Montana Tony, prisonnier politique renvoyé par Cuba. J'exige mon putain d'asile politique. Maintenant, c'est le président Jimmy Carter qui le dit.
Le film devient rapidement culte chez toute une génération de rappeurs, Akhenaton, Rofs, Tommy Bugsy, ou plus récemment Gradure ou Booba. Dans son clip PGP, sorti en 2019, on voit Booba d'ailleurs confortablement assis derrière son bureau, façon Tony Montana. Il en parlait dès 2002, dans son titre « On m'a dit ».
On m'a dit de changer des mots pour pas que les psys me suivent, pas grâce à moi qui pense à Tony devant leur
On m'a dit, on m'a dit, oh, c'est bon qu'à soi dès les halls, fais attention, on m'a dit que lui c'est un show, on m'a dit, oh.
Mais c'est surtout la devise de Tony Montana qui va inspirer les rappeurs. « The world is yours », le monde est à toi. Très inspirant évidemment pour les jeunes des quartiers qui se sentent souvent exclus de la société. Le monde est à toi, c'est aussi le titre du film de Romain Gavras, fils de Costa et cofondateur du collectif Courtrage, mais on va y revenir.
Bon, vous vous attaquez le bateau avec Henri et moi je m'occupe de l'échange de sa fille.
Comment tu nous as retrouvés là ?
Pourquoi comment je t'ai trouvé ? T'es sur Periscope H24, connard, va.
Donc, il y a plusieurs tonnes sur le bateau. On rapporte à Poutine ce qu'il attend et on se partage le reste.
Avec ça, vous serez refait.
Moi si, d'accord, je suis d'accord.
Au casting du Monde est à toi, on retrouve notamment Vincent Cassel ou Isabelle Adjani. Écoutez-la en parler au micro d'Europe.
C'était très ludique, très assez déjanté, mais très maîtrisé parce que Romain Gavras est un cinéaste attentif à tout. Mais il a réussi à me convaincre par la vision de cinéaste qu'il a, que j'ai découverte à travers ses clips, parce que c'est quelqu'un qui n'avait fait que un film, et son univers pop m'a attirée.
Et je vous parlais de Courtrage, mais c'est en fait un collectif qui, en 1994, proche du milieu du hip-hop, commence par réaliser de nombreux clips pour les rappeurs. On y retrouve notamment Kim Chapiron, Lajli, réalisateur plus récemment des Misérables, Mouloud Achour aussi, un collectif notamment soutenu par Vincent Cassel ou Mathieu Kassovitz. Mais c'est surtout au début des années 2010 que les choses vont s'accélérer, car les rappeurs vont être recrutés comme acteurs dans certains films. Joy Star, par exemple, va marquer les esprits pour son rôle dans Police de Mai Wen. Ça lui vaudra même une nomination au César du meilleur acteur. Ironie de l'histoire, celui qui, dans ses chansons, insultait la police, se retrouve à jouer un policier de la BAC, précisément. Écoutez-le en parler au micro d'Europe 1.
On est obligé de s'abandonner, là, on ment pas. Donc forcément, on se découvre certaines choses qui sont pas forcément apparentes dans la vie de tous les jours. Donc forcément, il y a des choses, on se révèle certaines choses à soi-même. Effectivement, ils avaient des réticences de la part des gens de leur service et tout ça. Ouais, Joey Star, un flic, machin. Et puis finalement, c'est allé au-delà de ça, quoi. Les mecs étaient assez fiers, quoi.
Quelques années plus tard, c'est Nekfeu que l'on retrouve dans un film réalisé par Thierry Cliffa, le titre « Tout nous sépare ». Nekfeu donne alors la réplique à une certaine Catherine Deneuve.
Je ne veux plus que vous voyiez ma fille.
C'est important pour toi qu'elle ne me voit plus ?
Oui, très.
30 000 euros, je disparais.
Je suis un sale type, tu vois. J'ai l'habitude de rien demander à personne.
Moi aussi, je ne demande rien à personne. Moi aussi, je suis un sale type.
Nekfeu qui récoltera lui aussi une pré-nomination au César, il nous en parlait sur Europe 1 de cette expérience cinéma.
Je ne pensais pas du tout au cinéma en fait. Enfin, je le pensais plutôt comme quelque chose qui ne m'intéressait pas en fait. Mais après, au fil des discussions, et après avoir le scénario et le casting, etc., ben, je me suis dit que je ne pouvais pas refuser.
Alors au départ, c'est vrai que les rappeurs ont surtout été sollicités car ils ont des gueules et puis une vraie présence à l'antenne. Mais assez vite, eux aussi vont en profiter pour prendre la parole et parler de leurs problèmes, de leurs histoires, notamment de banlieue. C'est le cas du rappeur Abdelmalik. En 2014, il sort son film « Qu'Allah bénisse la France », un biopic sur lui-même. Écoutez-le en parler au micro d'Europe 1.
J'ai pas fait ce film parce que je me trouve beau et merveilleux, mais parce que j'ai le sentiment qu'on parle énormément finalement du rap, on fantasme énormément sur les cités, la banlieue, et j'ai voulu parler de ça de l'intérieur. Ce qui m'intéressait, c'est essayer de réfléchir de manière complexe à ces problématiques. Ça compte énormément.
Comme je vous le disais plus haut, Abdelmalik, lui aussi, assume la référence à Scarface.
Je viens vraiment de la rue. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, j'ai vu des gens mourir, mais littéralement, parce qu'ils avaient vu Scarface. Ils se prenaient pour Tony Montana, etc. Donc moi, mon film, qu'Allah bénisse la France, se veut une sorte d'anti-Scarface, se veut une sorte d'antidote. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que pour moi, aujourd'hui, être subversif, c'est être capable de faire du lien. Parler d'amour, c'est la subversion absolue.
Et c'est vrai qu'en plus, les films de rappeurs en général marchent bien en salle. Grand Corps Malade, par exemple, rappeur slammer, a sorti en 2017 Patient, directement tiré de sa propre histoire. Il y raconte cet accident qui l'a laissé handicapé et surtout sa longue rééducation en centre spécialisé.
Je savais qu'en racontant mon histoire, je serais proche de la réalité, mais le but de ce film, c'était pas de faire un biopic, c'est pas l'autobiographie de ce qu'était Grand Corps Malade avant de faire de la scène. Il n'y a pas trop de pathos parce qu'on essaye de le chasser dès le début. En plus, il se trouve que dans ces centres de rééducation, dans ces lieux très durs en effet, eh ben, il y a énormément d'humour. Il y a un humour handicapé qui est très trash, qui est très très drôle.
Alors comme souvent, il faut bien le dire, la France est un peu à la traîne par rapport aux États-Unis. Car cette porosité entre rap et fiction existe depuis longtemps là-bas. Dès 2002 par exemple, Eminem jouait dans 8 Miles, film très largement inspiré de sa vie. L'histoire de Jimmy Smith Jr., un garçon qui grandit dans un van le long de 8 Miles Road, la ligne de démarcation entre le quartier blanc et le quartier noir à Détroit. Il a des flots plein la tête mais ne sait pas encore rapper.
Tu travailles toujours au Little César à Warren ?
Non. Je bosse à Détroit sur une presse.
Ah, le branque, il s'est fait virer du pizzeria.
En tout cas, j'ai un job.
Lève ! Baisse !
T'es encore en retard, Smith. T'es viré.
Tu sais que tout le monde te traite de loser.
Tu t'es jamais dit qu'il faudrait arrêter de planer et redescendre sur Terre ?
Plus récemment, c'est la série Atlanta, interprétée par le rappeur Donald Glover, plus connu sous le nom de Childish Gambino, qui a cartonné. L'histoire de Earn, qui a quitté la prestigieuse université de Princeton pour essayer de produire son cousin Alfred, star montante du hip-hop. L'une des raisons du succès de la série, c'est Punchline.
Je veux être ton manager.
Mon manager? Tu sais d'où il vient ce mot?
Du latin manus, qui veut dire main.
Sûrement, mais je vais te dire que non, pour le bien de mes arguments. Manager vient du mot homme, et c'est pas trop ton truc.
Mon truc?
Il me faut un Malcolm X, et toi, t'es un Martin. Et tu sais qu'ils l'ont buté, le Martin.
Ils ont aussi buté Malcolm, non?
Oh non, ça c'est ce qu'ils racontent. Mais personne n'a revu le corps après l'enterrement.
C'est le but des enterrements.
Il faut dire qu'aux États-Unis, le rap a toujours été accepté comme partie intégrante de la pop culture. En France, il est en train de le devenir, mais progressivement. Preuve en est, aujourd'hui, les plus gros vendeurs d'albums sont des rappeurs. Jul, Vita et Slimane, et tout le monde est gagnant. Ils apportent leur notoriété et leur public au milieu du cinéma, qui en échange leur ouvre un public plus large. Booba, lui, a refusé toutes les offres de cinéma qui lui ont été faites, mais il aura bientôt son propre biopic. Et comme le milieu du rap marche sur grand écran, eh bien les producteurs se sont dit pourquoi pas le décliner en série. C'est ainsi que Validé a vu le jour sur Canal+ l'an dernier. Bilan, 6 millions de visionnages en 5 jours.
Je viens tout arracher, j'ai tellement de flow, je mets le feu sur la batterie, Apache. DJ Snow frère, putain je kiffe tes sons.
Eh, pour moi t'es le meilleur.
Écoute, c'est gentil. Moi aussi j'aime bien ton style.
Moi tu sais, je suis fan de ma star depuis que je suis tout petit. D'ailleurs, est-ce que tu penses que tu peux me rendre un service s'il te plaît?
C'est quoi?
Ouais, premier concert de ma star à l'Elysée Montmartre. C'était mon premier concert. Et jamais 10 piges et du coup c'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais faire du rap, tu vois. Tu penses qu'il y a moyen que ma star il me signe la place?
Et d'ailleurs, Franck Gastambide, le réalisateur de Validé, sera avec nous dans quelques instants. La série est uniquement centrée sur l'univers du rap, ses règles, ses codes. La plupart des rappeurs, d'ailleurs, y apparaissent et ils ont accepté de jouer leur propre rôle. Joystar, Kool Shen, Soprano et Attic, le rôle principal. Sa carrière musicale a explosé avec le succès de la série. Angela. On pourrait aussi parler des Sauvages, autre série de Canal+, coécrite par Rebecca Zlotowski avec la prestation très remarquée de Fianso. Plus récemment, Abdal Malik a lancé sa série Cité sur TikTok.
Un jour, les chemins se séparent, les destinées s'isolent. C'est déjà beaucoup que d'avoir rencontré des amis. Quand ils nous font l'honneur de nous inviter à partager leur joie étrangère, montrons-leur tout ce que peut la fraternité des esprits.
Et très prochainement, un film biopic consacré au groupe NTM sortira en salle. Il est réalisé par Audrey Estrugo et très attendu. Alors comment le verrou entre rap et cinéma a-t-il sauté? Pourquoi? Qu'est-ce que l'un et l'autre peuvent s'apporter? Dans un instant, pour répondre à ces questions notamment, je reçois Franck Gastambide, réalisateur de la série Validé et qui fait apparaître d'ailleurs des rappeurs dans tous ses films depuis longtemps. Il sera dans le studio de Clap. Mais d'abord, j'en parlais tout à l'heure, on va écouter IAM, l'empire du côté obscur, référence directe à l'univers de Star Wars. Vous êtes à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europa.
C'est le côté obscur de la force.
Le sombre monarque débarque et éteint son pouvoir. La puissance de l'ombre s'installe. Non, ne résiste pas, ne lutte pas, ne te détourne pas de la main tendue vers toi. Où je vais explorer le royaume de tes peurs en devenir le dictateur pour mieux te dominer. Là, tu deviens raisonnable, c'est bien, oui. Tombe sous le charme pour de meilleurs lendemains. Pour les rebelles, la force est trop forte. Je balaye les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Les indécis sont avertis qui se méfient de la seule étoile qui se fond dans la nuit. Le bastion de bas fond du pays en action. L'énergie dégagée génère une telle attraction que vers lui se tournent enfin tous les regards pour s'apercevoir que l'espoir émerge du noir. Une partie de tout homme, la force manipule de rien. Il suffit pour que l'être bascule, que les yeux de l'aveugle s'ouvrent, qu'il contemple Mars de l'obscur côté. Le temple n'est pas peur, ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur, sentir la chaleur de l'obscurité. Pour toi, il est l'heure de rejoindre l'armée des guerriers de l'ombre. Ne vois-tu pas ton côté clair qui succombe, c'est ta destinée. Pourquoi vouloir lui résister sans peine? Je ferai sauter les verrous de ta volonté. Sois l'hôte dans la noirceur la plus pure de l'empereur et arbore les couleurs du côté obscur.
Obscur, ta force est noire. Noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur. La force est noire, noir comme le château où flotte l'étendard, notre drapeau. Sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté obscur.
Nous devons tous deux unir nos efforts pour l'attirer vers le côté obscur de la force.
Je suis le fils de Jafar, le sale rejeton de Dark Vador, le grand Kador, du maniement, le mic j'adore. Adapter ma technique à la manière du caméléon, sans pitié pour mater la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, langue amère, un pilote V50 en tant que sabre laser. Quoi, ma conscience comme seule médaille, je traque et je tripe sans remords tous les chevaliers de Jedi. La haine monte en toi, je le sais parfaitement, je vois ta main droite gantée de noir. C'est sans espoir, la mutation ça
t'amorce. Ta nature que tu obtures le côté obscur de la force. Viens vers moi, passe le pont de part en part, rejoindre ma demeure dans la lune noire. Mars et l'Empire, je lance mes troupes à terre pour éradiquer ces nids de Jean-Claude Godin Skywalker. Petit présomptueux, ne vois-tu pas le nombre déployé? L'armée des ombres, tu seras éliminé. Au nom des forces mystiques qui habitent là dans mon cerveau, je ne donne pas cher de ta peau. Le souffle de la force est en moi, le microphone crépite, crache des tas de flammes sur les hampoils. Le fils de Dieu tremble mais lutte avec ses armes, renverse les credos qui lui semblent erronés, brise les traîtres de la tête opéronnée. Par la peur, l'ennemi reste sclérosé. Longue vie au règne de la nuit, d'une théorie qui renverse les croyances établies.
Aide-moi.
Idiote, il est trop tard, tu appartiens au sinistre sombre seigneur vêtu de noir. Casque sous le roc sous une armure du soldat le plus dur de l'Empire du côté obscur.
Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur, la force est noire, c'est noir comme le château où flotte l'étendard. Notre drapeau, sois sûr que sous les feux, la vérité est masquée. Viens, bascule de notre côté. Obscur.
Fais ce dernier pas en direction de la force obscure.
Et pour continuer de parler de la représentation du milieu du rap sur grand écran et de comment le cinéma aussi a influencé le rap, je suis ravi d'accueillir maintenant Franck Gastambide. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Réalisateur notamment des Kaira, de Pattaya, de Taxi 5 et de Validé, série sur le milieu du rap qui a connu un énorme succès sur MyCanal. On va en reparler. Merci d'être avec nous. D'abord, question un peu large, mais est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les barrières justement entre le rap et le cinéma ont totalement sauté ? C'est-à-dire qu'on voit des films ou des séries qui parlent du milieu du rap ? On voit beaucoup de rappeurs dans les films qui jouent leur rôle ou d'autres rôles d'ailleurs. Est-ce que, voilà, ça y est, ces deux milieux ont réussi à se rencontrer ?
Alors, je ne sais pas s'ils se sont vraiment rencontrés. Ce que je sais, c'est que le cinéma a toujours cherché à employer des gens que le public avait envie de voir. Johnny a joué dans des films, Aznavour a joué dans des films, il y a des tas d'artistes de variété comme ça qui jouent dans des films, et le rap étant devenu la première musique de France, peut-être même la première musique du monde, eh bien c'est assez naturellement que les créateurs de cinéma ou de séries se dirigent vers des artistes de rap parce qu'on sait que le public, et notamment le public jeune, a envie de les voir.
Donc c'est qu'une histoire de, j'allais dire, même si c'est un peu un gros mot, mais de récupération. Il n'y a pas un moment donné aussi l'idée de se dire que finalement le milieu du rap a aussi beaucoup de choses à dire et que ça peut se faire sur grand écran ?
Ah bah, que le milieu du rap ait beaucoup de choses à dire, je suis évidemment bien placé pour en parler puisque je viens d'y consacrer une série dont la saison 2 arrivera avant l'été. Et avec le succès que vous avez rappelé, donc évidemment que le milieu du rap a beaucoup de choses à dire. La vraie question, c'est est-ce que le cinéma se sert des rappeurs pour dire des choses ? Ça, j'en suis moins sûr. Moi, je pense que évidemment beaucoup de cinéastes font appel à des rappeurs. Alors parfois parce qu'ils ont un physique atypique, oui. D'autres fois parce qu'ils ont ils portent des espèces de blessures, mais aussi, il faut l'avouer, parce qu'ils sont populaires et qu'ils vont générer un intérêt d'un public plus jeune pour leurs films. Je suis assez convaincu de ça.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous, valider, pour reprendre votre série et l'histoire, pour le coup, qui est vraiment centrée sur le milieu du rap, ses codes, sa façon de produire de la musique, etc. Ça, aujourd'hui, au cinéma, on a encore du mal à produire des films comme ça ?
Non, je pense qu'au contraire, maintenant que Validé a eu le succès qu'on connaît, je pense que ça ouvre des portes, mais vous savez, chez Canal+, ça n'a pas été une évidence tout de suite quand j'ai proposé cette série sur le milieu du rap. On a d'ailleurs d'abord souhaité que ce soit un peu comédie, que ce soit un peu dans la veine de ce que j'avais l'habitude de faire dans mes films. Oui, il a encore fallu expliquer que le rap touche une population maintenant très très large, que c'est plus qu'une musique de banlieue, c'est la musique du monde entier, que les plus gros vendeurs, les plus gros streamers sont des rappeurs, et que donc parler d'un sujet qui... faire une série ou un film qui traite du sujet, des coulisses de cette musique, ça allait toucher un public beaucoup plus large que celui qu'on pouvait envisager. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je pense que maintenant, ça va ouvrir des tas de portes.
Parce qu'à l'inverse, on a l'impression que depuis longtemps, le milieu du rap, lui, s'est inspiré du milieu du cinéma. Je pense notamment à la production de clips qui très vite se sont faits à la manière du cinéma, ou en tout cas avec des moyens dignes du cinéma.
Oui, c'est vrai. Les rappeurs sont tous des vrais fans de cinéma. Alors évidemment que dans le catalogue des films parodiés dans des clips ou qui influencent des clips. Il y a évidemment tous les classiques, il y a Heat, il y a Scarface. Ça c'est vraiment et puis d'ailleurs, il continue à y avoir des tas de morceaux de rap qui s'appellent Scarface, etc. Il y a des rappeurs maintenant qui vont tourner aussi certains de leurs clips dans des décors de films. Oui, les rappeurs sont très inspirés par le cinéma, mais je crois qu'on l'est tous. Hein.
Et pourquoi justement Scarface a cette aura chez les rappeurs? C'est marrant parce que c'est vrai que ça remonte à il y a longtemps et même presque au premier groupe de rap français qui ont fait découvrir ce style de musique.
Écoutez, c'est probablement lié au fait que Scarface raconte l'ascension de quelqu'un qui vient de nulle part, et c'est une partie des revendications de certains rappeurs. Alors pas tous, parce que comme on est en train de se le dire, maintenant le rap est une musique extrêmement large qui ne se cantonne pas qu'aux banlieues. Il y a des rappeurs qui viennent de tout horizon, de tout style, de tout milieu socio-culturel. Mais Scarface reste la référence de l'ascension, quoi, de l'ascension du mec qui n'a rien.
Oui, c'est ça. Je le disais, vous avez réalisé les Kaira, Pattaya, Taxi 5, mais pas encore de film vraiment sur le milieu du rap. Est-ce que c'est une envie? Parce qu'on retrouve des codes dans ces films-là, mais à la manière de valider, est-ce qu'il y a une envie de faire un film, un long métrage qui pourrait parler du milieu du rap?
Écoutez, le milieu du rap est un milieu tellement riche que j'ai décidé de le raconter en série. Et d'ailleurs, les grands films qui traitent du milieu du rap, comme 8 Mile, par exemple, le film d'Eminem, sont souvent des films autobiographiques. Mmh. Maintenant, un film qui traite du milieu, franchement, en 1h30, c'est un peu juste. Je pense très humblement avoir pris le meilleur choix de traiter en série cet univers du rap. Et maintenant, dans tous mes films, notamment, enfin ceux que vous avez cités, j'ai toujours eu des rappeurs dans chacun de mes films. Il y a Soprano dans Taxi 5, il y a d'autres rappeurs dans Pattaya et dans Les Carrera. Moi, c'est ma culture. J'ai grandi en banlieue, j'ai toujours écouté du rap, donc je sais à quel point l'énergie de la culture hip-hop influe sur mes films et sur ce que je fais. Et puis chacun de mes films, parce que c'est aussi ça où il y a un point commun entre le rap et le cinéma, c'est que maintenant, on fait souvent appel à des rappeurs pour faire des tubes, pour faire des bandes originales qui vont accompagner la sortie des films. Et moi, je l'ai fait évidemment avec Taxi 5, pour ce qu'avait instauré d'ailleurs Luc Besson très tôt avant tout le monde, d'investir des rappeurs dans ses projets, d'investir des rappeurs pour faire finalement via une musique la promo de leur film.
C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il y a aussi les codes du rap qui envahissent un peu plus largement, c'est pas juste le sujet. Je suis obligé de vous poser la question pour les fans de Validé, alors je vais laisser quelques secondes à ceux qui n'ont pas vu la saison 1 pour baisser un peu le son, mais quand on regarde la saison 1 et notamment la fin, le héros principal disparaît, pour faire simple et large, pour pas tout révéler. Alors comment vous allez réussir à vous renouveler dans une saison 2? On va changer de personnage?
On va raconter d'autres choses. Pour la petite info exclusive, la saison 2 s'intéressera au parcours d'une femme dans le milieu du rap. Donc on retrouvera évidemment tous les héros de la saison 1, mais qui seront cette fois entourés d'une femme qui va traverser évidemment des tas de complications liées au milieu du rap, mais surtout liées au fait d'être une femme dans le milieu du rap. Et en prenant cette décision de terminer ma première saison de manière aussi radicale et violente, eh bien c'était aussi pour me laisser la possibilité de me renouveler complètement sur cette saison 2 que je viens de terminer de monter et dont je suis, comme toute l'équipe, très satisfait. Voilà.
Et qu'on a hâte de découvrir avant l'été, donc vous disiez.
Oui.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Franck Gastambide d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Je vous en prie.
Merci d'avoir fait un petit détour par Clap pour parler comme ça de la représentation du rap sur grand écran et sur un petit peu plus petit écran d'ailleurs, notamment dans les séries. Merci d'avoir été avec nous.
Avec plaisir, au revoir.
Et nous, on se retrouve dans un instant pour le questionnaire Les films de ma vie. Aujourd'hui, c'est Nicolas Maury qui a accepté de nous répondre, acteur notamment, vous savez, dans la série 10%, c'est lui qui joue Hervé. On verra tous ses plus grands souvenirs de cinéma. À tout de suite.
Europe 1.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. On ouvre maintenant notre séquence Les films de ma vie. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Nicolas Maury. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nos auditeurs ont peut-être déjà reconnu votre voix, peut-être qu'ils vous connaissent. Vous êtes notamment le Hervé de la série 10%. Vous devez en avoir marre qu'on rabâche ça à chaque fois. Mais je le dis pour nos auditeurs qui regardent 10%. Et surtout, vous aviez sorti juste avant ce dernier confinement votre premier film en tant que réalisateur qui s'appelait Garçon chiffon. On en avait déjà pas mal parlé dans cette émission. Et il va ressortir dès que les salles rouvrent.
Oui, oui, vous dites il s'appelle.
Oui, c'est vrai, j'ai dit, voyez, c'est horrible.
Pourquoi parler à l'imparfait? Non, parlons-en au parfait, au présent. Oui, oui, il s'appelle Garçon chiffon et j'espère de tout mon cœur et ma page, j'espère, il ressortira, bien sûr, dès la réouverture.
Bon, et on en reparlera, parce qu'on l'avait déjà conseillé à l'époque, mais évidemment, certains de nos auditeurs ont pu avoir la chance de le découvrir, mais peu, puisque vous faites partie de ces films qui sont sortis quelques heures.
Coupés en plein vol.
Coupés en plein vol. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour notre questionnaire ?
Oui.
On y va. Votre meilleur souvenir en salle, Nicolas Maury ?
Ah, ça doit être à Bordeaux. J'allais dans un Gaumont, je devais avoir 18 ans. Et j'étais tellement pressée de voir Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, parce que ce film, je crois, est dans l'histoire du cinéma le film le plus teasé au monde. On voyait des bouts de films, des bouts de bande-annonce, et puis la bande-annonce, et puis après, des mois après le film. Et quand j'ai vu ce film, j'ai été envahie, inondée de ce qu'est le cinéma. C'était très très fort, parce que j'avais l'impression de voir... de la matière cinéma, et puis cette chose un peu aussi sulfureuse dans l'histoire de ce couple, parce que c'est un film qui parle du fantasme beaucoup, de s'imaginer ce que ferait sa femme si on n'était pas là, et est-ce que s'imaginer c'est pas pire que la réalité. Ça, c'est pour moi l'endroit absolu du cinéma.
Écoute, je sais pas si tu sais, mais on est en retard.
Je sais. Comment tu me trouves ?
Parfaite.
Et mes cheveux, ça va ?
Ravissant.
Tu ne m'as même pas jeté un coup d'œil.
Superbe. Tu es toujours superbe.
Rosa, le numéro où on est, le numéro de ton bip ?
Oui, c'est sur le frigo. On y va ?
Ok. C'est bon. Je suis prête.
Le film que vous auriez aimé voir au cinéma et que vous avez vu à la télé ?
Ah ben, ça va faire peut-être bondir les gens, parce que je pense que c'est absolument un film à voir au cinéma. C'est A Star Is Born, avec...
Lady Gaga, Bradley Cooper ?
Non, le premier.
Ah non, c'était le premier.
De Q-Core, enfin.
Je
non,
sais pas.
Attendez.
Ça m'étonnait que vous me disiez...
Je parle pas d'un truc Burger King, moi. Je parle de Star Is Born, de Q-Core.
The night is bitter. The stars have lost their glitter. The winds grow colder. Suddenly you're older.
Absolument magnifique, avec Judy Garland. Un film qui assume la toile derrière, la toile peinte, le faux décor. Et je me suis vraiment dit, comme il n'y avait plus de cinéma, je me suis dit, mais vraiment non, on ne peut pas dire que le cinéma va devenir plateforme, va devenir forme plate. Non, le cinéma, c'est dans les églises, et les églises que sont les cinémas, voilà.
Tu vas devenir une grande vedette, Esther, mais surtout que tu ne changes pas trop. Prends garde de ne pas te laisser griser par le succès.
Norman, comme tu dis ça, on dirait... que c'est la fin de quelque chose et non un début. On pourrait croire que c'est presque un...
Alors, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. Tu as fait un bout de chemin avec moi. Ça devait finir un jour.
Quoi ?
Nous en resterons là.
Je ne veux pas y croire.
Ah non, écoute-moi.
Sur toi-même, je t'aime, mon amour.
Tu sais, je détruis tout ce que je touche et ça a toujours été comme ça.
Non.
Ah, oublie-moi, je suis un pauvre type.
Le film que vous avez le plus vu, Nicolas Maury ?
Ah, sans hésiter, Casino de Scorsese.
M'a donné à diriger un des plus grands casinos de Las Vegas. Le Tengiz.
Pour moi, c'est un film, je ne sais pas ce qui me ramène toujours à ce film. C'est un film vraiment que je rejoins, que je retrouve toujours. J'aime cette idée de saga. Il explose le temps, le film, et en même temps, il y a une chose tellement sexy, sexuelle dans la façon de regarder De Niro, de regarder Sharon Stone... dans comment, je sais pas, il y a quelque chose du cinéma à l'état pur. Oui.
Ils avaient tout, c'est eux qui menaient la danse. Et c'était le paradis. Tant que ça a duré.
Le film qui vous a fait le plus pleurer ?
Moi, je pleure beaucoup dès que je vois Julia Roberts dans un film. Elle me fait un effet d'immense doudou, proximité. C'est très étonnant. Par exemple, Coup de foudre à Notting Hill me fait vraiment pleurer. Il joue vraiment avec ça, avec être au bord du vide émotionnel. Et il joue vachement sur la mimésis aussi. Et je crois que le génie de Julia Roberts, c'est ça, c'est que quand elle pleure, on pleure. Et quand elle rit, on rit.
Je dois partir aujourd'hui. Je me demandais si tu voudrais bien qu'on se voie de temps en temps. Ou souvent même.
Écoute, Anna, je vais dire non à cette touchante demande. Avec toi, je suis vraiment
En danger. Tu es célèbre dans le monde entier. Un jour, tu t'en irais, moi... Ça me foutra en l'air, pour ainsi dire.
Et le film qui vous fait le plus rire ? Le même, alors, vous riez.
Non, c'est pas non plus ta galette. Ce qui me fait énormément rire, par exemple, j'aime beaucoup l'humour d'Antonin Parejatko. J'adore cette idée absolument inédite d'accélérer les dialogues, enfin que les personnages parlent juste un petit peu plus rapidement, ça me fait hurler de rire. Donc j'aime bien tous ces films, Antonin.
Allô, bonjour. Je sais que ça vous est resté en travers de la gorge qu'on ne soit pas d'accord avec vous sur la guerre en Irak, étant donné que vous n'avez toujours pas trouvé d'armes de destruction massive, vu qu'il n'y en avait pas, à moins que vous les mettiez vous-même. Enfin bon, j'aimerais savoir comment on fait quand on arrive à la frontière des États-Unis et qu'on a perdu son passeport. Ah, mais ça commence bien.
Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami ?
Par exemple, Tendre Passion, de James L. Brooks. Avec la divine Shirley MacLaine.
Debra Winger et Emma Greenway Horton.
Bonne nouvelle. C'est-à-dire ? Je suis officieusement enceinte. Tu n'es pas heureuse pour moi ? Oh, je serais furax si tu ne l'es pas.
Shirley MacLaine est Aurora Greenway, sa mère.
Pourquoi le serais-je ? Pourquoi devrais-je tellement me réjouir de devenir grand-mère ?
Récemment, je me suis dit, c'est drôle, j'en parle jamais de ce film. Et souvent, Garçon Chiffon dit, c'est quoi vos inspirations et tout. Et je crois, par exemple, il y a beaucoup de clés dans ce film qui sont dans Garçon Chiffon. Voilà.
Et à votre pire ennemi, vous lui conseilleriez quoi?
Je lui conseillerais tous les caisses qu'on a fait au bon Dieu.
Tous les, il y en a que deux, je crois, pour l'instant.
Bah, tout, ça fait beaucoup.
Ça fait déjà deux.
Ça fait une sacrée somme.
Pour finir, quelle est la bande originale qui a le plus marqué votre vie, Nicolas Maury?
Bah. Je dirais que c'est la bande originale de Jackie Brown.
Ah !
Ouais, j'adore, c'est exactement... Oh, j'aime tellement le cinéma de Tarantino, j'aime tellement son côté porno dans son choix de musique, de score. Quoi. Il y a un côté bam, il y a un côté vraiment pulsionnel. Pulseux, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, ça pulse, quoi.
Randy Crawford, Street Life, extrait de la bande originale de Jackie Brown. C'était votre choix, Nicolas Maury. Merci beaucoup d'être venu dans le studio de Clap.
Merci beaucoup.
Et nous, on se retrouve dans un tout petit instant. Le temps d'accueillir mes collègues critiques avec un beau programme. Aujourd'hui, on va débattre du court-métrage de Pedro Almodovar. Ça s'appelle La Voix Humaine. Ça sort en DVD VOD. On parlera de Falcon et le Soldat de l'Hiver sur Disney+. De deux. Vous savez, ce film qui a reçu le César du meilleur premier film, qui devait représenter la France aux Oscars, qui n'a pas été sélectionné, mais ça vaut le coup de le voir, on vous dira ça. Et puis Sacrée Sorcière version Robert Zemeckis, à tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et ils m'ont rejoint dans le studio de Clap pour débattre des films sortis en DVD, VOD ou sur vos plateformes. Aujourd'hui, autour de la table, Caroline Vier de 20 minutes et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu. Bonjour,
bonjour Mathieu. Bonjour Caroline.
Bonjour
on a
Fabrice.
Un très beau programme. La Voix Humaine, c'est le court-métrage de Pedro Almodovar qui vient de sortir. On a Falcon et le Soldat d'Hiver. Ça, c'est sur Disney+. C'est signé Marvel. On a Sacrée Sorcière, mais version Robert Zemeckis, également en achat digital. Et puis, deux, ce film de Filippo Meneghetti qui a reçu le César du meilleur premier film il y a une semaine, qui représentait la France aux Oscars dans les présélectionnés, qui n'a pas été retenu dans les finalistes. On vous dira quand même si ça vaut le coup ou pas de le regarder, car ça arrive sur OCS. On commence, les amis, avec La Voix Humaine. C'est donc un court-métrage de 29 minutes précisément, signé Pedro Almodovar et porté par Tilda Swinton.
Hello? Oh, it's you. No! You have to come. That's what we agreed on, that you would come. You don't say goodbye to a woman you've loved for more than 4 years with a telephone call.
Alors on est dans un monologue, dans un film d'ambiance assez formidable. Et il faut bien dire, moi je trouve que ça fait du bien de retrouver l'esthétique de Pedro Almodovar en ces temps compliqués pour le cinéma. C'est un film librement inspiré de la pièce « En un acte » de Jean Cocteau, créé à la Comédie française en 1930. Et c'est donc l'histoire de cette jeune femme, jouée par Tilda Swinton, quittée par un homme dont on n'entendra jamais la voix. Elle est au téléphone avec lui, elle se défoule en quelque sorte. Et elle va tour à tour racher le costume de cet amour perdu à la hache, justement, entamer une tentative de suicide, sans aller jusqu'au bout, incendier son appartement. Voilà, on est dans l'exercice de style. Caroline Vier, c'est faut payer, je précise, hein, pour le voir sur Internet ou sur les plateformes. C'est un achat digital, comme on dit. Est-ce que ça vaut le coup ?
Ah oui, absolument, ça vaut le coup. Et en plus, quand on l'achète en support physique, on a un très très bel entretien avec Pedro Almodovar.
Exactement.
Et Tilda Swinton qui
en
nous
bonus.
Explique
oui, parce que ça sort aussi en DVD,
ça,
c'est
absolument.
Vrai.
Et c'est magnifique. On retrouve l'esthétique de Pedro Almodovar, ça fait un bien fou. On a l'impression de se laver les yeux. Et la voix de Tilda Swinton, ça donne l'impression de se laver les oreilles. Avant elle, bah, Simone Signoret avait créé le rôle, notamment pour un enregistrement, mais cette fois-ci sur vinyle. Et je trouve qu'elle est digne de Simone Signoret, avec en plus les super images d'Almodovar. Moi, je dis, allez-y.
C'est un coup de cœur. Fabrice Leclerc, partagé ?
Oui, voilà, pourquoi faire long quand on peut faire 29 minutes d'un cinéma absolument brillant où on retrouve tous les codes d'Almodovar. On a l'impression d'être dans le même appartement que celui qu'on a vu dans ses précédents films, très coloré. Et puis voilà, c'est tout le cinéma d'Almodovar. C'est le talent de Tilda Swinton, hommage à Cocteau, évidemment, à Rossellini, un hommage aussi à Hitchcock, parce que tout le début est un vrai hommage d'Almodovar à Hitchcock. Voilà, c'est ce que je vous disais. 29 minutes de pur bonheur. Alors voilà, est-ce qu'il faut acheter un achat VOD ou un coffret pour seulement 29 minutes ? Écoutez, dans cette carence de cinéma actuelle, je dis oui.
Le bonheur est tellement rare que 29 minutes de bonheur, on ne les laisse pas passer.
Et puis surtout, il faut encourager, moi je trouve, ce genre d'initiative.
Vous nous parlez de quoi, la Caroline ?
Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut encourager ça, parce que voilà, une sortie digitale en ce moment, c'est compliqué, les salles sont fermées, il y a des créateurs qui créent pour ça, en l'occurrence
Almodovar. Alors, le film devait sortir en salle, même court-métrage, il devait sortir en salle, malheureusement, ça n'a pas été possible.
Donc voilà, 29 minutes d'Almodovar, on crache pas dessus, allez-y, surtout que c'est très réussi, ça s'appelle La Voix Humaine, et c'est disponible en achat digital ou en DVD, vous allez dans tous les grands magasins et vous trouverez ça. Deuxième chose dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est une série, mais comme elle est dérivée de l'univers Marvel, je voulais qu'on en dise un mot. Ça s'appelle Falcon et le soldat de l'hiver, et ça arrive sur Disney+.
Ce bouclier représente un tas de choses pour un grand nombre de personnes.
Les symboles ne sont rien sans les femmes et les hommes qui leur confèrent leur valeur.
Les super-héros ne devraient pas exister. J'ai bien l'intention de finir ce que j'ai commencé.
Le monde entier est en plein chaos.
Par où on commence ?
Alors, une question va sous-tendre ce récit. Qui pour reprendre le costume de Captain America ? Ouais, vous savez, on avait quitté nos Avengers dans Endgame. Vous en rappelez peut-être, à la fin, Steve, Captain America donnait son fameux bouclier en vibranium à son ami Sam Wilson, le fameux Faucon. Voilà, je peux vous dire, puisque c'est le début du premier épisode de la série, on ne va pas m'accuser de spoiler, que Sam, il n'en veut pas vraiment de ce bouclier. Qui pour le remplacer ? C'est toute la question. Alors, il y a aussi le soldat de l'hiver avec lequel il va devoir faire équipe. Le soldat de l'hiver qui ne va pas très bien, là aussi, vous le découvrirez. Il est en psychothérapie, on peut dire, ou en tout cas, il se confie à une psy. Et nos deux super-héros vont devoir lutter contre des méchants, tout en se questionnant sur qui ils sont, sur quelle place ont-ils dans l'univers, dans les super-héros Marvel. Fabrice.
Alors,
on n'a vu qu'un épisode, pour être totalement honnête avec nos auditeurs.
On
n'a
vu qu'un épisode.
Parce qu'évidemment, c'est très verrouillé.
C'est une série, oui, mais c'est vraiment construit comme un film de 6 heures, donc, puisqu'il y a 6 épisodes, enfin peut-être un peu moins, parce que les épisodes font entre 30 et 45 minutes. Alors, c'est marrant parce qu'après VandaVision, qui était quand même totalement explosé, totalement jouissif, totalement inattendu dans l'univers Marvel, là, on a quand même l'impression qu'on revient aux
fondamentaux.
Au basique, alors la scène d'ouverture qui est une grande scène d'action, ensuite beaucoup de palabres, un peu de politique, un peu de voilà, d'ethnie, on parle un peu de tout. J'espère que les épisodes suivants seront un peu meilleurs, parce que là c'est quand même un peu écrit bas du front, c'est quand même un peu extrêmement téléphoné. Voilà, alors ça va reprendre l'intrigue de Captain America Civil War avec Daniel Brühl en méchant, mais ça on ne le voit quasiment pas dans le premier épisode, même pas du tout. Donc voilà, moi j'attends de voir, mais enfin bon, j'ai peur qu'on ne soit pas aussi, comment dire,
surpris qu'avec
VandaVision.
Vous dites un peu de politique parce qu'il y a ce rapport notamment des Afro-Américains, puisque Falcon c'est
Et puis, le gouvernement américain a décidé de prendre une mauvaise décision, vous le verrez dans l'épisode.
Caroline, ce Falcon est le soldat d'hiver.
Bah, le problème, moi, c'est que ça ne m'intéresse pas beaucoup, je ne vais pas vous mentir. Hein. Alors, bon, courageusement, je l'ai
regardé. Moi non plus, vous savez.
J'ai regardé mon premier épisode, alors techniquement, et pour tout ce qui est scène d'action, c'est génial. Dès qu'il se tape dessus, c'est super, il se passe plein de trucs. Le reste du temps, je vais avouer franchement et piteusement que j'étais un peu larguée. Je me rappelais bien plus ce qui était arrivé à Captain America. Donc, je suis allée revoir sur Internet.
On nous le précise, qu'il a retrouvé son amour d'enfance.
Alors, pour moi, il était mort. Mais bon, en fait,
oui, mais dans
voilà.
Le passé, il retrouve...
Oui, j'avais un petit peu...
Et puis, il lui a donné son bouclier.
D'accord.
Vous savez, le grand truc rouge et bleu.
Oui, qui est assez moche. Bon, enfin, voilà. En tout cas, voilà, c'est clairement pas pour moi. Je pense que les gens qui aiment ça seront contents de l'avoir. Mais pour ma part, je ne regarderai pas la suite parce que franchement, c'est voilà, autant Mandalorian, parce que l'univers Star Wars me parle, me touche, autant l'univers Marvel, ben, ce n'est pas mon univers.
Mais WandaVision, vous aviez aimé, Caroline ?
Je n'ai pas regardé parce que quand je ne suis pas obligée, je ne regarde pas.
D'accord.
Voilà, non, mais je ne suis pas fan de ça, je n'en dégoûte pas les autres.
Non,
hein.
Parce qu'on peut aimer le Marvel original et inventif et s'il y a comme WandaVision et trouver que ce Marvel-là est beaucoup plus mainstream.
Pour ma part, si je n'étais pas payée pour, je ne les regarderais pas du tout. Voilà.
D'accord.
Bon. Allez, Falcon et le soldat de l'hiver, c'est sur Disney+. Est-ce que vous regardez, Caroline, Sacrée Sorcière, signée Robert Zemeckis ? Vous nous dites ça dans un instant.
Information importante sur les sorcières. Elles existent. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que les sorcières détestent les enfants.
Mesdames, j'ai un plan. Une goutte suffira à transformer un enfant en souris.
On s'est fait ensourisser, ensorceler. Oh bon, ça va.
Voilà, Sacrée Sorcière, qui devait sortir là aussi en salle et qui arrive lui aussi en achat digital, DVD, VOD, etc., etc. Alors évidemment, c'est une nouvelle interprétation du conte de Roald Dahl, l'histoire d'un petit garçon recueilli par sa grand-mère à la mort de ses parents. Elle lui apprend depuis toujours à se méfier des sorcières, accusées notamment de kidnapper les enfants. Sauf qu'ils vont se retrouver tous les deux dans un hôtel où se tient justement, sans qu'ils le sachent au début en tout cas, un congrès de sorcières qui vont transformer notre petit garçon en souris, et il va avec deux copains et cette grand-mère chercher à se venger. C'est Anne Hathaway qui joue la grande haute sorcière, la chef en quelque sorte. Moi, je me rappelle l'avoir vu en salle, ce film, puisqu'à l'époque, il était programmé pour la salle. Beaucoup de gens ont redécouvert cette histoire, notamment avec la bande dessinée de Pénélope Baggio qui est sortie chez Gallimard. Donc, c'est une histoire qui est comme ça revenue dans l'air du temps. Est-ce que ça vaut le coup, Caroline ?
Non, pas vraiment, en fait.
Oh,
là, je suis désolée, là, je dois être un schtroumpf grognon aujourd'hui. C'est très convenu, c'est pas désagréable, mais franchement, on aimerait bien que Robert Zemeckis fasse un tout petit peu moins de films, parce que celui-là, on voit pas bien. Autant la bande dessinée de Pénélope Baggio, c'est vraiment épatant, ça apporte une nouvelle lecture à l'univers de Roald Dahl. Autant là, c'est pas désagréable, mais franchement, c'est pas... Moi, je l'ai vu moi aussi pour la sortie en salle et je l'ai déjà pratiquement oublié. C'est pas déplaisant, mais ça ne présente pas un grand intérêt, ça pourrait être réalisé par n'importe qui par ailleurs.
Mais écoutez, moi, je ne l'ai pas vu pour la sortie en salle, donc c'est tout frais dans mon, dans mon souvenir.
Nous.
Écoutez, c'est quand même... on est, pour moi, à la limite de la catastrophe. Pourquoi ? Parce que... non, attendez. Déjà, si vous voulez vraiment comprendre l'œuvre de Roald Dahl, vous regardez un film de Nicolas Roeg qui s'appelle Sorcière et qui est absolument extraordinaire, qui était déjà adapté du bouquin. Après, mais mon Dieu, mais quel cabotinage de Anne Hathaway, avec sa bouche qui va jusqu'aux oreilles, elle, et son accent russe, elle en fait 112 000 tonnes. Robert Zemeckis, totalement absent. Voilà. Alors, c'est un projet qui avait été initié par Guillermo del Toro et Alfonso Cuarón. Imaginez ce que ça aurait pu donner. Là, Zemeckis, c'est vraiment aux abonnés absents. Pourtant, c'est un grand metteur en scène. Moi, j'aime beaucoup le début. Alors, j'aime beaucoup les 20 premières minutes. C'est l'histoire d'un petit garçon voilà, qui va grandir au fur et à mesure, qui a perdu ses parents. Il y a plein d'inventivité. Et puis, dès qu'on arrive dans cet hôtel, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, alors là, c'est le grand n'importe quoi, c'est la foire.
C'est le personnage de la grande sorcière qui vous plaît pas.
C'est la foire à neuneux, et alors là, plus rien ne se passe jusqu'à la fin du film. Non, mais c'est fait pour les... Bon, voilà, c'est de l'hollywoodien fait au kilomètre dont on veut plus, quoi. On veut un tout petit peu d'intelligence et d'originalité dans ces films.
Oui, un peu moins de cabotinage et un peu plus de mise en scène, si c'était possible, merci.
Oui, alors... et puis un scénario peut-être aussi.
Ah oui, bon, pas mal bon, ça.
N'en jetez plus, Sacrée Sorcière, Robert Zemeckis. Alors si vous voulez un peu d'intelligence, me revoilà avec deux, signé Filippo Meneghetti, César donc du premier film il y a une semaine. C'était le film que la France avait présélectionné pour les Oscars, il n'est pas dans les finalistes. Mais est-ce que ça vaut le coup ?
Joyeux anniversaire.
T'as rien dit à tes enfants, non ?
Mais si, j'ai essayé de lui dire.
Tu as changé d'avis ?
Je t'ai dit que je leur annoncerai demain. Je voulais vous dire
une chose qui est très importante pour moi.
Elle a eu un accident vasculaire.
Elle pourra peut-être pas reparler.
Alors, je vais pas faire un résumé très long, mais pour vous dire l'ambiance de ce film, ça parle du coming out et de la difficulté du coming out chez les personnes âgées. En l'occurrence, c'est l'histoire de Nina et Madeleine. Tout le monde les pense simples amies et voisines. Elles vivent dans deux appartements de palier face à face. Sauf qu'en fait, bah nous, spectateurs, on sait qu'elles sont amoureuses et en couple. Ça va se corser lorsque Madeleine fait un malaise, perd un peu la tête et la mémoire, et que Nina va quand même vouloir continuer à la voir. La famille de Madeleine n'étant pas au courant, tout ça va donner toute une série de quiproquos au départ, puis ensuite une série de résistances. Moi, pareil, là aussi je suis transparent avec vous, j'avais vu ça il y a très longtemps, puisque c'est un film qui est sorti en salle très très peu de temps, et j'en garde un super souvenir. Caroline.
Moi aussi, je trouve ça absolument magnifique, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, les actrices sont épatantes, c'est très pudique, et ça pose des problèmes tout à fait intéressants, à savoir ben voilà, le droit de disposer de soi-même, le droit de disposer de son amour, de son corps, de sa vie, y compris quand on est plus âgé, c'est surtout une très belle histoire d'amour. Ça m'a bouleversée. C'est très pudique. Je trouve que c'est un film qui parle évidemment du coming out, mais pas seulement. Ça parle du droit d'aimer à l'âge canonique, voire plus que canonique, qu'on sait d'âme. Magnifique. Et je suis très triste. Ravie qu'il ait eu le César et très triste qu'il ne soit pas allé aux Oscars.
Et c'est voilà, filmé quasiment en huis clos dans ces deux appartements. Fabrice.
Non, je suis d'accord. C'était un très beau film qui avait un peu surgi de nulle part l'année dernière. D'ailleurs, je crois qu'on avait été très peu à le défendre au moment où il est sorti en salle. Ce qui est amusant, c'est que dès qu'il a été qu'il devait concourir pour l'Oscar pour la France, tout le monde adorait ce film. Personne ne l'avait vu avant.
Au moins, ça aura servi à ça.
Ça aura servi à ça. Film très touchant. Film avec deux personnages et deux actrices absolument étonnantes, Barbara Sukowa et Martine Chevalier. Oui, c'est une histoire d'amour homosexuel, en plus de lesbienne, en plus de lesbienne senior, je crois. On rajoute beaucoup dans
Oui, c'est vrai que vu comme ça, problèmes. Ça n'envoie pas du rêve, mais je vous assure,
non,
c'est
magnifique. Non, mais c'est une histoire d'amour très tendre, très belle, très voilà. Et puis c'est sur la fin de vie, c'est sur la perte de la mémoire. Après, moi, j'ai été touché, je n'ai pas été ému. Voilà,
ah, j'ai pleuré.
Je trouve que ce film est très beau, je trouve que ce film me porte et me touche. Moi, je manque un peu d'émotion,
de cœur,
mais c'est un très beau film. C'est un très beau film qu'il ouais. faut absolument défendre et qu'il faut absolument voir.
Et qui n'est pas plombant, en plus. Il faut
non,
le signaler,
c'est pas du tout
malgré
plombant.
Ce qu'on dit.
Là,
je plaisante plus, ce n'est vraiment pas un film déprimant.
Film rebelle. C'est un film très rebelle. Très
et
rebelle
ça fait du bien.
Sur sa question, en tout cas. C'est une vraie rébellion et je trouve ça très bien.
Deux que vous retrouvez sur OCS et d'ailleurs, je pense aussi toujours en VOD payante puisqu'il est sorti il n'y a pas très très longtemps. En salle, on a aussi parlé de Sacrée Sorcière de Robert Zemeckis, que vous m'avez bien descendu les amis, de Falcon et le Soldat de l'Hiver sur Disney+, et de La Voix Humaine, ce court-métrage de Pedro Almodovar, que vous retrouvez en DVD et VOD payante. Caroline Vivier, 20 minutes, merci beaucoup.
Merci Mathieu.
Fabrice Leclerc, Paris Match, merci beaucoup.
Merci à vous.
Ah tiens, je voulais vous dire d'un mot aussi.
Dites-nous.
J'ai reçu le roman de la réalisatrice Éléonore Pourria. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui avait fait Je ne suis pas un homme facile, qui avait été diffusé sur Netflix.
Absolument, oui, avec comment ça s'appelle
Vincent Elbaz.
Vincent Elbaz, absolument.
Et qui vient de publier un roman qui s'appelle Poupée, et qui raconte là aussi une histoire d'amitié folle à l'époque où elles étaient adolescentes. Ça dure 2 ans. Finalement, elle perd la trace de son amie. Et 30 ans plus tard, elle va chercher à reprendre contact. Là aussi, c'est un très beau roman. Et c'est marrant, quand je le lisais, je voyais presque déjà l'adaptation au cinéma.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire.
Et c'est chez Lattès. Voilà, Poupée. Merci beaucoup, les amis.
Merci.
Nicolas
Merci
Baudin réalise ce clap. Marjorie Adelson le prépare. Émission que vous retrouvez évidemment en podcast sur Europe1.fr, sur toutes vos plateformes. Allez-y, réécoutez-nous, commentez, notez. Dites-nous ce que vous en pensez. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. Même lieu, même heure, 14h sur Europe 1.
Europe 1.